Seigneur, merci de nous conduire par ton Esprit Saint dans tout ce que nous avons à écouter, que tu nous parles et que cela transforme nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons parler de Jésus-Christ, l'intermédiaire sauveur. Donc, pour comprendre ce sujet, nous allons lire d'abord dans Genèse au chapitre 1er. Genèse au chapitre 1er. Est-ce qu'on peut baisser un peu? Genèse premier chapitre. Non, excusez-moi, plutôt Genèse au troisième chapitre. Genèse 3, 8 à 24. Genèse 3, 8 à 24.
Genèse chapitre 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Adam.
Oui, on continue.
Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie.
Voilà, donc Adam a été chassé du jardin d'Éden. Et puis Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre des anges puissants avec des épées flamboyantes pour l'empêcher d'entrer dans le jardin d'Éden. Puisque Adam a péché contre Dieu, il a voulu... être comme Dieu lui-même. Et nous avons bien lu que Dieu les a chassés. Il les a chassés parce qu'ils étaient devenus impurs. Et dans la présence de Dieu, rien d'impur ne peut subsister. il les a chassés et ils ont subi la malédiction liée au péché. Et nous lisons Jacques 4, 6. Jacques 4, 6.
Jacques 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. »
Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Alors, nous avons vu dans une première partie Dieu chassait l'homme du jardin d'Éden parce qu'il a péché. Il a péché pourquoi ? Il a péché par orgueil. Il a voulu devenir l'égal de Dieu. Donc tous les péchés viennent de l'orgueil, au fait. Quand l'homme pêche, en quelque sorte, il veut dire à Dieu, je fais ce que je veux. Alors que Dieu, c'est lui qui l'a créé. Et dans Jacques 4, 6, ça dit que Dieu résiste aux orgueilleux. En fait, l'histoire que je veux raconter, l'exhortation que je veux apporter, chaque humain dans le monde entier doit l'entendre. Chaque humain dans le monde entier doit comprendre que le mal qu'il y a dans le monde vient de l'orgueil, vient du fait que l'homme a voulu vivre sans Dieu, vivre selon sa propre logique. Ça vient de cela. Donc, chaque humain doit comprendre que le mal qu'il voit autour de lui, dernièrement, on m'a montré des vidéos de bagarres dans la rue, dans un pays d'Afrique où il y avait des mains carrément coupées. Et c'est horrible. Et tout ça vient en réalité du péché que l'homme lui-même a commis de vouloir être l'égal de Dieu. De sorte que ce soit le vol, le mensonge, toutes ces choses ont pour origine l'orgueil de l'être humain. C'est ça la réalité. Et deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu n'est pas un commerçant qui cherche des clients. Quand nous parlons de lui, certains ont l'impression que nous sommes en train de les flatter pour venir à Dieu. Pas du tout. Dieu, c'est le premier à chasser Adam. Ce n'est pas Satan qui a chassé Adam du jardin d'Éden. C'est Dieu lui-même. Et dans Jacques 4, 6, c'est dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il a en lui, naturellement, de la répulsion face à l'orgueil. Donc quand quelqu'un manifeste de l'orgueil, naturellement Dieu le repousse. Vous savez, comme nous avons vu en physique, les pôles négatifs de l'aimant se repoussent. Les pôles positifs se repoussent naturellement. Et Dieu repousse l'orgueilleux naturellement. Il ne faut pas croire à cause de parfois l'amour de certains chrétiens qui nous supplient de nous convertir, il ne faut pas croire que Dieu cherche des clients. Non, naturellement, Dieu repousse le pécheur, naturellement. C'est ça en réalité. Mais bon, il est aussi amour. Et c'est ça dont nous allons parler, le problème entre l'amour de Dieu et sa répulsion naturelle du péché. Voilà, Dieu, Jacques 4, 6 le dit, il résiste à l'orgueil. Dès que quelqu'un manifeste l'orgueil, Dieu lui résiste. Donc le premier problème que l'être humain a, ce n'est pas par rapport à Satan, ce n'est pas par rapport à l'homme, c'est par rapport à Dieu lui-même. Dieu lui-même est en colère contre l'homme. C'est Dieu le problème. Donc c'est le premier à dire, renvoyez-le. Chassez-le du jardin d'Éden. C'est le premier. C'est ce que chacun doit comprendre. Dieu ne cherche pas de clients. Lorsque nous disons qu'il nous aime, qu'il veut nous sauver, ce n'est pas qu'il est en manque. C'est par son amour qu'il fait ces choses-là. Il ne cherche pas de clients. Et aujourd'hui encore, nous sommes venus le rappeler. Dieu résiste aux orgueilleux. Certains chrétiens, parfois, ils évangélisent, Il parle de Dieu à gauche, à droite, et il rencontre une certaine résistance. Il met ça que sur la faute du diable. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que c'est vrai qu'il y a le diable qui voit les gens pour ne pas voir, ne pas constater la grandeur de Dieu, mais il y a aussi la résistance propre à Dieu lui-même. Dieu lui-même résiste à l'homme orgueilleux. C'est naturel en lui. Dès que l'homme manifeste l'orgueil, le péché, il lui résiste. Il l'éloigne. Il le repousse. C'est naturel. Mais comme nous l'avions dit, le problème c'est que Dieu est aussi amour. En lui, il y a aussi de l'amour pour l'homme. Et du coup, il veut le sauver. Mais comment sauver quelqu'un que naturellement tu repousses? Parce que le péché est incompatible avec Dieu. Ça crée de la répulsion. Comment sauver l'être humain que naturellement lui-même les repousse? Nous allons lire déjà le psaume 130, 1 à 4, pour toujours comprendre ce dossier que nous sommes en train de traiter. Dieu repousse le pécheur, il repousse l'orgueilleux, mais il veut le sauver. Mais comment faire?
Psaume 130, verset 1er, cantique des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne.
Amen. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Il est écrit dans le verset précédent, si tu gardais le souvenir des iniquités, qui pourrait être sauvé? Ça veut dire quoi? C'est que naturellement, quand quelqu'un pêche, il est perdu. Il est repoussé loin de Dieu. Donc il y a quelque chose qui se passe pour que Dieu puisse nous accepter à nouveau. C'est ce dont nous voulons parler aujourd'hui, de Jésus, l'intermédiaire sauveur. Puisque Dieu repousse naturellement tout être humain qui pêche, et que en même temps il aime, il faut trouver un moyen pour sauver celui qu'on aime, mais en même temps qu'on repousse. Et le moyen que Dieu a trouvé, c'est un intermédiaire. Un intermédiaire qui ne va pas avoir de problème avec Dieu. Il lui faut un intermédiaire correct. Un intermédiaire qui, lui, n'est pas repoussé. Qui, lui, peut parler avec Dieu sans problème. Pour cela, il faut que cet intermédiaire, lui, n'ait pas de péché. Parce que dès que quelqu'un a le péché, il est repoussé loin de Dieu. Dieu ne peut même pas l'entendre. Donc, il faut un intermédiaire qui, lui, peut se rapprocher de Dieu afin de parler en faveur de ceux qui ne peuvent pas. C'est ça l'histoire de l'humanité. Donc, lorsque nous avons péché, nous avons été repoussés, rejetés par Dieu, et en même temps, il a voulu nous sauver. Il a voulu, dès le départ, il est écrit qu'il a planifié quelque chose pour nous sauver, dès le départ. Et cette planification a abouti à ce que ça produise un intermédiaire. Un intermédiaire qui soit sans défaut, sans faute, et lui pouvait alors venir voir Dieu et s'écraser devant lui. Je vous ai dit que on a parlé de péché, mais on a dit que le péché venait de l'orgueil. Et Dieu résiste à l'orgueil. Donc, même cet intermédiaire-là, pour faire face à Dieu, il fallait qu'il s'écrase. Sans faute, sans défaut, sans péché. Agréable à Dieu, mais humble en même temps. Cet intermédiaire devait se présenter devant Dieu avec humilité, à l'inverse de l'homme qui a voulu faire le grand. C'est ça qui s'est passé lorsque Dieu a cherché un intermédiaire. Eh bien, son fils a dit, me voici. Dans le psaume 40, il dit, fais-moi un corps, je veux venir en homme et je vais être l'intermédiaire. Je vais être celui qui va vivre sans péché. Je veux être celui qui va vivre que de ta volonté. Comme ça, tu pourrais m'entendre si je te parle de mes frères. Il fallait que l'intermédiaire soit aussi un humain, pas un animal, pas un ange. Alors, le Fils de Dieu, qui est Dieu d'éternité en éternité, il est venu en homme pour être l'avocat des humains, l'intermédiaire. Vous savez, dans un tribunal, quand tu amènes un avocat, l'avocat est mieux écouté que toi-même. Puisque l'avocat, lui, il est considéré comme un intermédiaire sans faille, sans faute. Un intermédiaire qui respecte la loi. Et lui, on peut l'écouter. Donc, il y a une garantie sur lui comme quoi il peut, il parle correctement, il parle justement, il utilise la loi comme il faut. Et cet avocat-là, ça a été le Fils de Dieu lui-même. Il est venu en intermédiaire pour nous sauver. C'est ça la bonne nouvelle. Bien-aimés, ne nous amusons pas avec la bonne nouvelle. Dieu ne cherche pas de clients. C'est son amour aujourd'hui qui nous parle. Il ne cherche pas à augmenter le nombre de gens qui le suivent. Il est juste dans l'amour. Et cet amour l'a poussé à chercher un intermédiaire. Et dans Ésaïe 59, 16, il est écrit que son fils, le bras de Dieu, lui est venu en aide. Parce qu'il cherchait un intermédiaire. Parce qu'il nous aime, mais il ne peut pas nous sauver parce que naturellement, il nous repousse. Bien-aimés, ne nous méprenons pas là-dessus. Dieu est dans la colère contre le péché, contre l'orgueilleux. Ne nous méprenons pas. Il ne cherche pas à récupérer l'orgueilleux. C'est dans son amour qu'il veut récupérer l'homme. Pas l'orgueilleux, mais l'homme. Dans son amour. Et il sait que sans l'intermédiaire, c'est fini. Est-ce que rendons-nous compte que sans intermédiaire, c'était fini pour nous. Parce que qui allait parler à Dieu? Naturellement, il nous repousse à cause du péché. Il a fallu un intermédiaire qui peut s'approcher de lui. Je suis en train de vous faire le résumé du salut. C'est ça le résumé. C'est que tout homme, comme c'est écrit dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et impossible à sauver, sauf lorsqu'un intermédiaire vient, un intermédiaire parfait, sans péché, un intermédiaire qui s'écrase devant Dieu. Parce que notre orgueil a offensé Dieu à haut niveau. L'intermédiaire, lui, doit venir supplier Dieu, dire voilà, je sais que tu es Dieu. Nous avons péché. Mes frères ont péché. Mais moi, j'ai été agréable à toi. À cause de moi, sauve aussi mes frères. Il fallait que Jésus se fasse frère de la race humaine. Qu'il vienne sous forme d'humain, qu'il se fasse frère de nous pour qu'il puisse dire à Dieu, maintenant que moi j'ai été agréable à ta parole, est-ce que tu peux maintenant sauver mes frères? J'ai payé pour eux. L'intermédiaire, quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il paye pour tous les péchés des coupables. C'est ce qu'il s'est passé. Jésus-Christ a payé pour tous les péchés des coupables. Je vous fais ce résumé parce que nous sommes en fin d'année. Beaucoup de choses peuvent se passer. Et une année nouvelle commence. Il faut commencer cette année avec le résumé de l'histoire de l'humanité. C'est ça l'histoire de l'humanité. Nous avons péché, nous avons été refoulés. Et naturellement, Dieu nous repousse. Mais il est amour. Et dans son amour, il veut nous sauver. Et pour cela, il fallait un d'entre nous qui soit sans péché, qui soit pur, qui soit amour et qui vienne en s'écrasant devant Dieu. Pour que Dieu ne regarde plus à notre orgueil, mais regarde à son humilité, à l'humilité de l'intermédiaire et qu'il nous fasse grâce à cet intermédiaire-là. Vous savez, c'est un discours aussi pour tous ceux qui pensent qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes. Personne ne peut se sauver. Parce que, étant pécheurs, nous sommes repoussés de Dieu. lui, il ne peut voir que l'intermédiaire. Cet intermédiaire qui est son fils, qui n'a jamais péché et qui a toujours fait que la volonté de Dieu. Il y a plein de passages dans la Bible dans lesquels Jésus dit « Je ne fais que la volonté de Dieu, que sa volonté ». Donc c'est un intermédiaire parfait et humble. Je répète, bien-aimé, Dieu ne te cherche pas comme un commerçant cherche un client. C'est juste son amour qui veut te sauver. Parce que naturellement, lui, il te repousse. Si les choses ont été présentées comme si Dieu cherchait des clients, c'est faux, complètement. Dieu, naturellement, il nous repousse. Parce qu'il résiste naturellement à l'orgueilleux. Vous savez, il y a un autre nom que Dieu a, que Dieu porte, c'est l'Éternel des armées. Il est l'Éternel des armées. C'est un guerrier. C'est l'Éternel des armées. Et bien aimé, il est majestueux. Et quand quelqu'un est majestueux, il n'accepte pas que quelqu'un veuille le marcher sur la tête. Voilà. Il est Dieu, il est majestueux, il est glorieux. C'est pourquoi il dit dans Ésaïe 42:8, il ne donnera sa gloire à personne. Il est Dieu. Et donc quand l'homme s'est présenté pour vouloir le rivaliser, Dieu aussi s'est présenté. C'est ça qu'on appelle résister. Dieu a montré aussi que c'était lui qui était Dieu. Quand Satan a voulu rivaliser avec Dieu, vous lisez ça dans Ésaïe et dans Ézéchiel 28, dans Ésaïe 14 et dans Ézéchiel 28, vous allez voir, quand il a voulu rivaliser avec Dieu, il était que Dieu l'a précipité. Et Dieu nous a précipités, bien-aimés. Dieu est grand et il va rabaisser tous ceux qui veulent s'opposer à lui. Il va te rabaisser. Il va te rabaisser et te repousser. Aujourd'hui, si nous parlons de salut, c'est à cause de l'intermédiaire. L'intermédiaire a regardé au cœur de son papa. Il s'est dit, bon, il les repousse, mais il les aime quand même. Qu'est-ce que moi je peux faire comme apport en tant que fils bien-aimé? C'est prendre le corps d'un homme, devenir un humain et être l'intermédiaire. Devenir un humain parfait. Prendre leurs péchés, mourir à la croix pour eux, être condamné à leur place. Et il est écrit dans le livre d'Hébreux que après être passé par la croix, il est parti dans le lieu où se trouvait son papa avec son propre sang. Il a dit, voici le sang qui a coulé pour tous les péchés des humains. Il a ramené ce sang-là devant Dieu. Et c'est là que Dieu, son cœur s'est apaisé par rapport à nous et qu'il est disposé à nous sauver à cause de l'intermédiaire. Parce que, je répète encore, naturellement, il ne supporte aucun d'entre nous. Naturellement. Parce que nous avons hérité du péché de notre ancêtre Adam. Nous tous, nous sommes considérés donc à mettre loin de lui. Mais l'intermédiaire a pris notre nature. Et il peut se présenter devant Dieu comme notre frère. Et dit, c'est mes frères. Le péché que tu leur reproches, j'ai payé pour ça. Voilà mon sang qui a coulé. Est-ce que tu peux les accepter maintenant? Dieu dit, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que la vie éternelle ne s'obtient pas par des efforts humains. C'est lorsque tu saisis la main du Fils. Le Fils de Dieu qui vient, qui te dit, écoute, vous étiez tous perdus. Moi, j'ai payé pour vous. Il faut maintenant entrer dans mon bateau, entrer en moi, entrer dans une nouvelle vie, ma vie, qu'elle devienne votre vie. C'est comme ça qu'ensemble, nous pouvons aller auprès du Père, retrouver le paradis que nous avons perdu. C'est ça l'évangile. L'histoire de l'intermédiaire sauveur. Nous allons lire Ésaïe 53. Ésaïe 53, c'est un passage de l'Ancien Testament qui a été écrit 700 ans avant que Jésus vienne. Mais quand nous allons lire ça, vous-même, vous allez comprendre de qui on parle dans ces Ésaïe 53. ce Ésaïe 53 résume tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Ça explique ce qu'a été l'homme, le rejet de Dieu. Mais comment Dieu récupère l'homme? Toute cette explication que je viens de donner se trouve dans Ésaïe 53, 700 ans avant que Jésus ne vienne, pour nous dire, bien-aimés, que notre histoire est bien ficelée. C'est un plan de Dieu de depuis longtemps et qu'il a mis en place en Jésus, puisqu'il l'a annoncé déjà dans Ésaïe 53. Ça nous permettra de comprendre pourquoi il y a le mal dans le monde et comment Dieu nous sauve. Ésaïe 53.
Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
Voilà ce qui est écrit. Il est écrit, qui a cru à ça? C'est pourquoi j'explique. Parce que quand les gens entendent dire que Jésus est mort pour nos péchés, Jésus est mort à la croix afin que nous allions au ciel, parfois ce n'est pas très bien compris. C'est pourquoi ça commence par « Qui a cru en cela ?» Mais pour comprendre ça, il faut comprendre l'origine des choses. C'est que Dieu, à l'origine, nous a repoussés, nous a rejetés et c'était fini. Plus de contact, puisque nous avons le péché en nous. Le péché est produit par l'orgueil. Or, Dieu résiste à l'orgueil naturellement, comme les pôles d'un aimant se résistent mutuellement, se repoussent. Dieu résiste naturellement à l'orgueil. Naturellement. Alors, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait un intermédiaire. Il faut que l'histoire du salut devienne claire. Et lui, il a pris nos péchés. C'est lui qui prend en compte pour lui nos péchés et est condamné à notre place. C'est ça le travail de cet intermédiaire. C'est ça qui permet que nous, on puisse se rapprocher de Dieu. En fait, personne, aucun d'entre nous ne peut se rapprocher de Dieu en se disant « Ah mais non, mais j'ai été correct ». Mais ça n'existe pas, puisque nous avons tous hérité du péché d'Adam. Nous nous rapprochons à travers Jésus. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous pose la question, un ange ou un démon, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais je suis là. Mais oui, mais tu es un pécheur. Mais oui, mais je suis là par le compte de Jésus. Ah, d'accord. Il se tait. Parce que, comme c'est écrit, méprisé, abandonné, homme de douleur et de souffrance, nous l'avons dédaigné, mais cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni de Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés. Ce sont nos péchés qui l'ont amené à la croix. C'est ça le travail de l'intermédiaire. Bien-aimés, c'est ça. Vous savez, aujourd'hui, je ne suis pas Dieu pour fuir l'enfer. Il faut qu'on se comprenne. Je ne prêche pas le Seigneur pour aller au paradis. Je prêche le Seigneur parce qu'il m'aime. C'est une question d'amour. Je vais aller où? Vers Satan qui ne cherche qu'à me piéger? Vers le monde? Le monde a utilisé, vous savez, Mohamed Ali était déjà malade. Mais les gens qui ont profité de son argent, ils se sont dit, faisons-lui encore deux ou trois combats de plus. Parce que si on arrête maintenant, il savait, le médecin dit, savait qu'il était déjà malade. Enfin, qu'il allait vers une maladie grave. Mais les gens qui, pendant des années, ont profité de son argent, ils ont dit au médecin, oh, ne lui dis pas ça clairement, qu'on fasse encore deux ou trois combats pour qu'on gagne de l'argent. Vous voyez comment le monde est méchant. Je ne sers pas Dieu pour gagner quoi que ce soit. Je sers l'intermédiaire. Le frère Paul dit, si lui l'a fait ça pour nous, Et pourquoi nous, on ne ferait pas ça? Nous ne prêchons pas le Seigneur parce que nous voulons agrandir un troupeau quelconque. Non. C'est saisi par un tel amour. Quelqu'un qui n'a rien fait, qui lui, il vient se donner pour moi. Bien-aimés, rappelons-nous, nous n'avions aucun droit de citer devant Dieu. Bien-aimé, tu peux faire l'orgueil lié à ta jeunesse, lié à ta force, à ton intelligence, mais un jour, la mort annule tout ça. Aujourd'hui même, Pelé est mort. Les Brésiliens disent, mais nous croyons qu'il ne mourrait pas. Mais la mort montre la réalité de l'homme. Et aujourd'hui, bien-aimé, mon appel, ce n'est pas de venir à Dieu parce que tu fuis l'enfer. Viens à Dieu parce que c'est le seul qui t'aime réellement. Parce qu'il n'a pas suivi sa répulsion. Il a utilisé son propre fils pour contourner sa répulsion, pour te sauver. C'est ça, bien-aimé, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est extraordinaire. Nous allons continuer, Ésaïe 53.
Verset 6, du verset 5, au milieu, on nous dit. D'accord, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie.
Voilà. Il n'a point ouvert la bouche. Vous savez, Pilate qui jugeait Jésus, il a dit, mais il n'a rien fait. Il s'attendait à ce que Jésus rebondisse pour dire, effectivement, je n'ai rien fait. Mais même, c'est écrit que Pilate était étonné que Jésus ne dise rien. C'est normal. Lui, il ne pouvait pas imaginer que ce que Jésus était en train de subir, c'était nos péchés. Donc, Jésus ne pouvait pas faire marche arrière en disant, effectivement, je suis innocent. Oui, il était innocent, mais spirituellement, il était coupable parce qu'il avait pris nos péchés. Et donc, il ne pouvait pas faire marche arrière, il connaissait ce qui se passait, ce qui se passait n'avait rien à voir avec Pilate. Ça avait à voir avec le problème entre Dieu et l'homme. Jésus était là parce qu'il fallait qu'il paye à notre place. Donc, Pilate ne comprenait pas qu'un innocent ne se défende pas. Mais comment il va se défendre? Parce qu'il était coupable en réalité puisqu'il avait pris nos péchés. Bien-aimé, pourquoi devant cet amour, comment rester indifférent? C'est écrit clairement qu'il n'a rien dit. Et effectivement, ce jour-là, il n'a rien dit. Quand vous allez relire à la maison, vous allez voir effectivement que Pilate était étonné parce qu'il lui a posé la question. Mais que réponds-tu à toutes ces accusations? Il est écrit, Pilate était fort, il n'avait rien dit, et Pilate était fort étonné de cela. Parce que, en général, quand quelqu'un est innocent et que le juge même l'appuie, il va dire, mais oui, effectivement, monsieur le juge, monsieur le président, je suis innocent. Mais Jésus n'a rien dit. Il n'a rien dit, pourquoi? Parce que s'il disait quelque chose pour se défendre de son innocence, il nous perdait, nous. Il nous perdait, nous. Or, lui, il est venu pour nous. Alors il s'est tu. Il a laissé faire la colère de Dieu sur lui. Il faut que ça soit clair. Quand Jésus, ce que Jésus subit à la croix, c'est la colère de Dieu. Vous savez, la colère de départ dont j'ai dit qui crée la répulsion. Mais c'est écrit aussi dans Romains chapitre 1er. La colère de Dieu est sur tous les hommes qui cachent la vérité, qui pêchent. Il y a la colère de Dieu. La colère qui a chassé Adam du jardin d'Éden sort d'ici. Mais cette colère-là, Jésus a subi ça à la croix. À notre place. Il ne pouvait pas faire marche arrière. Nous continuons.
Au milieu du verset 7. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché,
amen, amen.
Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains.
C'est écrit, il a plu, verset 10, hein, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Est-ce que c'est le diable? Non. C'est l'Éternel qui le brise, qui brise son propre fils. Parce que ce fils-là, c'était l'intermédiaire. Souvenez-vous, Dieu, c'est l'Éternel des armées, le grand costaud. Il voit un petit homme qu'il a créé, qui se lève, Adam, pour dire, ah oui, moi aussi je peux. Il voit Satan, un esprit que lui l'a créé, qui se lève pour dire, ah moi aussi je peux. Ne vous en faites pas. Dieu n'a pas fait, Adam, je t'aime, non. Dieu aussi a fait comme ça. Chassez-le. Voilà. Maintenant, pour le retour, il fallait que quelqu'un soit écrasé. L'être humain devait être écrasé. Il fallait que ce soit clair qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est Dieu qui est Dieu et c'est le Fils qui a été écrasé à notre place, puisqu'il est venu nous représenter. C'est lui qu'on a écrasé. Il fallait que ce soit clair que c'est Dieu qui est Dieu. Et lui-même aussi, il a accepté ça. Pourquoi il a accepté ça? Parce qu'il fallait nous sauver. C'est ça, tout simplement. C'était le seul moyen. Aucun d'entre nous ne pouvait faire le retour là-bas. Personne. C'est l'intermédiaire qui pouvait sauver. Et c'est pourquoi il a été écrasé, c'est qu'il a été livré. Il a plu à l'Éternel de le briser. Il faut que l'homme soit brisé. C'est pourquoi Dieu crée des événements pour nous briser, mais les hommes sont têtus. Dieu ne peut sauver que l'homme humble. Il va créer des événements où tu vas reconnaître que tu as échoué. C'est là que tu peux attirer sa grâce. Je répète, Dieu ne cherche pas les clients. Si vous avez cru ça d'une manière ou d'une autre, vous vous trompez. Dieu, quand il veut nous sauver, c'est par amour. Nous continuons.
Verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort,
amen,
et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables.
Voilà. Dieu va élever le nom de Jésus au-dessus de tout, parce qu'il a intercédé pour les coupables. Les coupables, c'était nous. Et Dieu a donné l'intermédiaire qui s'est mis... L'intermédiaire, c'est quoi? C'est que Dieu est là, nous, nous sommes à droite. Impossibilité de contact, puisque le péché de nos péchés crée une répulsion avec Dieu. Impossibilité. Il fallait que parmi nous, il y ait quelqu'un qui soit parfait, qui puisse créer le contact. De sorte que l'intermédiaire est au milieu. C'est ça que ça veut dire, intercesseur. C'est intermédiaire. Il est au milieu. D'un côté, il fait le pont avec nous, mais le pont, il le fait comment? Par la race. Il est humain comme nous, il fait le pont là, mais il fait en même temps le pont avec Dieu. Il fait le pont avec Dieu comment? Par la race aussi, parce qu'il est aussi fils de Dieu, et qu'il est sans péché, et qu'il ne fait que la volonté de Dieu. Donc, il peut faire aussi le pont avec Dieu. Donc, du coup, ce qui était non réconciliable, eh bien, non joignable, c'est devenu joignable. C'est-à-dire que l'intermédiaire nous a joints à Dieu. Parce que Dieu ne pouvait pas être en contact avec nous directement. C'est impossible à cause de la répulsion de base. Et c'est l'intermédiaire qui fait le lien. Et c'est ça qui est Jésus-Christ. Et Dieu dit, à cause de ça, je mettrai son nom le plus grand. C'est ce qui est dit dans Philippiens 2:2. C'est à cause de ça que le nom de Jésus a été placé au-dessus de tout nom. Parce que qui pouvait être Dieu, venir un homme pour jouer un tel rôle, où il va être écrasé, brisé. Jésus a été brisé, écrasé, comme un ver. Dans le psaume 22, il dit, je suis comme un ver de terre écrasé. Il fallait que l'être humain soit écrasé, mais qui a été écrasé? Leur représentant, le Fils, l'intermédiaire, c'est lui qui a été écrasé. C'est ça l'histoire de l'humanité. Nous lisons dans 2 Corinthiens 4, 8. À partir du verset 8, on va s'arrêter où on peut s'arrêter. C'est pour nous dire que finalement, c'est la même chose qui se passe avec tous les chrétiens et les serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu est un intermédiaire. C'est quelqu'un qui peut être en contact avec Dieu par son comportement et son amour pour Dieu, par le fait que lui, il a décidé de suivre Dieu à 100%. Mais en même temps, il est au contact avec les humains par la race. Et lui, il vient dire à Dieu, « Sauve ma race !» Mais cette fois-ci, nous sommes des intermédiaires secondaires. C'est-à-dire que quand nous parlons à Dieu, nous lui rappelons ce qu'a fait l'intermédiaire principal. Nous lui disons, écoute, l'intermédiaire principal a déjà apaisé ta colère, a déjà payé à la croix. Maintenant, nous venons te solliciter ta miséricorde pour notre famille, pour le pays, pour nous-mêmes aussi. Nous, on vient dire, mais écoute, souviens-toi de ce que l'intermédiaire principal a fait. Et cela va engendrer quoi dans nos vies? Cela va engendrer des souffrances. Vous voyez, lorsque nous servons Dieu véritablement, pas comme nous entendons à gauche, à droite, des gens qui s'enrichissent, qui cherchent à s'enrichir en servant Dieu, ou bien qui font ça par souci de popularité, ce n'est pas du tout ça servir Dieu. Servir Dieu, c'est être intermédiaire entre Dieu, avec qui nous avons une bonne relation, et les humains que Dieu repousse. C'est ça, servir Dieu. Du coup, nous connaîtrons le même sort que le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, dans le milieu chrétien, il y a beaucoup de gens qui disent, on ne m'a pas dit bonjour, on ne m'a pas fait ceci, on ne m'a pas appelé, on ne m'a pas... Mais ce n'est pas le comportement d'intermédiaire. Un intermédiaire accepte de souffrir pour les pécheurs. Et si les gens ne t'ont pas fait tout ce que tu dis, sois leur intermédiaire, sois comme Jésus qui dit à Dieu, pendant qu'on l'amène à la croix, il dit pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le vrai chrétien est un intermédiaire, c'est un sacrificateur. Vous savez, c'est une histoire de 10 jours pour expliquer tout ce que j'explique là. Le vrai chrétien, c'est un intermédiaire. Il suit la façon de faire de son maître Jésus, qui a été rejeté par les hommes. Est-ce que vous vous rappelez que Jésus a été crucifié par les hommes? Mais il était venu sauver qui? Mais c'est les hommes qu'il est venu sauver. Mais qui l'a crucifié? Mais c'est les hommes. Mais est-ce qu'il les a maudits? Non. Il a dit, Père, reçois-les quand même. Aie pitié d'eux, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi il a dit cette phrase? Parce qu'il est venu pour les sauver. Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, dès qu'ils sont mécontents de quelque chose, ils oublient. Est-ce qu'ils savent même qu'ils sont intermédiaires? Aujourd'hui, peut-être que ça nous parle. Nous sommes des intermédiaires. À chaque fois que nous murmurons, nous cassons ce ministère d'intermédiaire. Lisons ce que le frère Paul dit dans 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, 8 à 19. Bon, on va s'arrêter là,
Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portons toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous.
Voilà. La mort agit en qui? En Paul. Et la vie agit en qui? Chez les autres. C'est-à-dire que Paul explique que ce qu'a fait Jésus, tout serviteur de Dieu est dans la répétition de la même chose. Il participe à l'œuvre de mort de Jésus, de sorte que la vie rejaillisse chez qui? chez les coupables, chez ceux que lui porte dans son cœur. Si tu portes le français, Dieu t'amènera dans ton cœur, Dieu t'amènera dans un chemin où tu vas livrer ta vie pour eux. Les histoires de succès là en prêchant, c'est des escroqueries. C'est pas la vraie foi, c'est pas la vraie, le vrai christianisme. Le vrai christianisme, c'est donner sa vie pour les autres. Jésus a dit dans Jean 15, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Les histoires de j'ai raison, des polémiques sans fin, c'est zéro. La vie chrétienne, c'est une question de bonté, d'amour, d'une personne qui se livre pour d'autres. Et cette scène-là va se répéter. Paul dit ceci, quand Jésus est mort, lui, il a reçu la vie. Maintenant, la même mort de Jésus est en train d'agir en lui pour que d'autres reçoivent la vie. Est-ce qu'on a compris? Le travail de l'intermédiaire, c'est celui-là. C'est le système par lequel Dieu sauve le coupable. Puisque entre Dieu et le coupable, il y a impossibilité de contact. Il faut l'intermédiaire. Et il y a eu un intermédiaire principal qui a fait ce qu'il fallait. Maintenant, les intermédiaires secondaires sont là pour rappeler ce que l'intermédiaire principal a fait. Il dit, ce que Jésus a fait, eh bien, moi, j'en ai profité, Paul. Maintenant que moi, j'ai saisi cela, je vais moi aussi, à mon tour, me livrer pour que d'autres puissent recevoir la vie. L'intermédiaire. Nous sommes tous appelés à devenir intermédiaires après avoir bénéficié du travail de l'intermédiaire principal. C'est ce que le frère Paul explique. Et il dit, la mort agit en nous, mais la vie, ça revient sur vous. Donc ça veut dire quoi? Quand Paul, lui, il va marcher toute sa vie pour prêcher à gauche, à droite, il est comme mort. Pendant que les autres sont en train de s'amuser, de fêter, de jouer à des jeux, lui, il est en train de prier, de jeûner, d'aller à gauche, à droite, d'annoncer l'évangile. Il ne s'est même pas marié pour qu'il puisse annoncer l'évangile. Mais il est comme mort, mais cette mort va produire la vie. Il va y avoir des conversions, des transformations de vie. C'est cela à quoi est appelé l'enfant de Dieu. Pas seulement celui qui a un titre, mais tout enfant de Dieu est appelé à vivre ainsi dans sa maison, dans son quartier, dans sa ville, dans son pays, dans le monde entier. L'enfant de Dieu est un exemplaire de Jésus. Il suit la même chose. Nous allons clôturer avec Exode 32, 7 à 14. Pour nous montrer que ce principe, il est très fort dans la Bible. Il est inscrit depuis longtemps, depuis longtemps. Jésus n'est que le couronnement, mais le principe est là depuis longtemps. Exode 32, dans Exode 32, nous allons lire, où Dieu dit, ben écoute Moïse, ces gens-là sont des mauvais, en parlant du peuple d'Israël. Je les détruis, parce qu'ils se sont opposés à moi. Vous savez, pendant que Moïse est à la montagne, ils ont fait un veau d'or. Et ils ont commencé à adorer le veau d'or en disant quoi? Ils ont dit que, merci veau d'or, c'est toi qui nous as sortis d'Égypte. Je pense que même, nous tous nous connaissons l'histoire d'Égypte, comment Dieu a sorti le peuple d'Israël d'Égypte. Mais ces gens-là ont osé dire que le veau qu'eux-mêmes ils avaient fabriqué, c'est lui qui les a sortis d'Égypte. Dieu dit, ah bon, ben je suis l'éternel des armées. Je les détruis tous. Écoutons la réaction de Moïse, l'intermédiaire.
Exode 32, verset 7. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement égarés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et ils lui ont offert des sacrifices. » Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple ? Que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils « C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple.
Amen, amen.
Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, « Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. » Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple.
Voilà, voilà, bien-aimé. Dieu dit à Moïse, c'est bon là, ils ont exagéré, je les détruis. Et à partir de toi, je commence une nouvelle humanité. Moïse dit non, non, tu m'as placé comme intermédiaire au milieu de ce peuple. Vous voyez que Moïse est avantagé. Il est avantagé. On lui dit, mais écoute, on détruit tout le monde. Il ne restera que toi. À partir de toi, je crée une nouvelle humanité. Moïse dit non. Non, parce que toi, tu l'as déclaré que c'est ton peuple. Vous savez, nous, nous avons plus de faveur, plus d'arguments que Moïse. Moïse n'avait que pour seul argument la promesse de Dieu à Abraham et Isaac et Jacob. Mais nous, nous avons mieux. Nous avons l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Pour dire à Dieu, mais non, tu ne vas pas laisser mon fils aller en enfer. Tu ne vas pas laisser un tel aller en enfer. Puisque Jésus a payé pour ses péchés à la croix. Et répands ta grâce. Je vous le dis, frères et sœurs, que ne vous y trompez pas, Dieu est en colère contre le péché, il est en colère, il est dans la répulsion. C'est pourquoi l'intermédiaire, c'est-à-dire le chrétien, celui qui a compris ces choses, va dire à Dieu pardon. Lui il va s'écraser pour les Normands, il va s'écraser pour les Français, il va s'écraser pour ses enfants. Il va dire Seigneur, aie pitié. Ce n'est pas comme certains. Les gens, ils pensent que l'évangile, c'est-à-dire que c'est un club qui les attire. Et ils prennent leur temps. Bien-aimé, personne ne connaît son avenir. Il ne faut pas prendre son temps. Dieu est en colère, c'est une réalité. C'est ce qui... Vous l'avez entendu dire, hein? Je les détruis tous. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Je les détruis tous. C'est Moïse qui dit, ah! Mais qui est-ce qui agite Moïse? C'est le même Dieu-là. Parce que le même Dieu-là, il aime. C'est ça le problème. Naturellement, il repousse. Mais naturellement aussi, il aime. L'équation est résolue comment? Par l'intermédiaire. C'est l'intermédiaire qui permet maintenant à l'amour de Dieu de prendre en quelque sorte une forme de déçu sur sa colère. C'est l'intermédiaire. Puisque l'intermédiaire comprend Dieu. Il comprend que Dieu est en colère, qu'il ne blague pas. Mais le coupable, il croit que c'est de l'amusement tout ce que nous disons. Mais l'intermédiaire a rencontré Dieu, il sait de quoi il s'agit. Et il dit pardon, rappelle-toi d'Abraham, d'Isaac. L'intermédiaire n'est pas là pour condamner les autres. Il est là pour sauver les autres. Alors, je clôture en disant, pourquoi, devant un tel amour, tu continues une vie loin de Dieu? Qu'est-ce que Dieu doit faire de plus? Il a donné son fils pour toi. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Au fait, il n'était même pas obligé de le faire. C'est ce qu'il vient de dire à Moïse, je vais les détruire. Comme nous, on détruit le reste, on prend le reste, on met dans la poubelle, le reste de nourriture, les emballages, on met dans la poubelle. Dieu pouvait nous considérer ainsi, nous détruire et faire autre chose. Mais l'intermédiaire dit stop. Mais comment l'intermédiaire peut dire stop? Parce que l'intermédiaire a déjà connu Dieu. Il est de Dieu, il comprend les choses, il nous voit comme
des animaux qui ne comprennent rien. Il a pitié. Il dit stop. Ils sont comme des animaux. Que ta grâce et ta miséricorde leur ouvrent les yeux. Qu'ils comprennent les choses. Bien-aimés, la mort des gens qui nous précèdent doit nous ouvrir les yeux. Le sort de beaucoup de puissants doit nous ouvrir les yeux. C'est que le jugement de Dieu sera implacable. Vous savez, dans ce monde, aux États-Unis, il y a un service qu'on appelle les Marshals. Ils poursuivent tout celui qui s'évade. Donc, vous voyez, quelqu'un, un service qui est dédié à suivre, à poursuivre les évadés. Si une justice humaine peut poursuivre quelqu'un pendant 20 ans, 15 ans, mais à combien plus forte raison la justice divine sera implacable. Mais en même temps, ce Dieu-là est amour. Et pour résoudre le problème, il a placé un intermédiaire. C'est Jésus, l'intermédiaire sauveur. Voilà. Si tu es chrétien, voilà la ligne à suivre. Si tu ne t'es pas encore engagé, nous ne cherchons pas de clients. Mais j'ai présenté les choses. Et je pose la question à tous ceux qui veulent s'engager avec Jésus. Si tu es là, tu veux t'engager avec lui, tu ne veux pas passer à côté de son amour, tu ne veux pas non plus passer à côté du ciel, parce que son amour, c'est pour nous amener au ciel. Tu ne veux pas passer à côté de Dieu. Avant, tu ne comprenais pas, mais peut-être qu'aujourd'hui, tu as compris. Jésus veut aussi t'accueillir aujourd'hui. Quand il est entré chez Zachée, Zachée a compris. Zachée, c'était un malfrat, un voleur. Quelqu'un qui exploitait le peuple. Mais quand Jésus est entré dans sa maison, il a vu clair. Il a dit, Jésus, à partir d'aujourd'hui, je rends tout ce que j'ai volé aux gens. Et la moitié de mes biens, je donne aux pauvres. Il a compris que celui-ci, c'était l'intermédiaire. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont mauvais et ils continuent dans le mal parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de solution. Si, il y a une solution. C'est l'intermédiaire. Jésus, non seulement il est l'intermédiaire, mais il est le transformateur. Il nous transforme à son image, de sorte que nous aussi nous devenons intermédiaires. C'est ce qui explique que nous soyons là. Vous savez, bien aimé, est-ce que vous connaissez les gens qui nous connaissaient avant? Ils ne vous diront pas que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, mais c'est Jésus qui transforme. Et il peut le faire avec toi. Beaucoup n'y croient pas qu'ils peuvent être transformés. Si tu peux être transformé, tu n'es pas plus mauvais que moi, que beaucoup d'autres qui ont accepté Jésus-Christ. Alors je viens te dire, aujourd'hui, si tu es là et que tu veux t'engager à Jésus, tu lèves la main où tu es, nous allons faire la prière. Et l'Esprit Saint, comme nous avons chanté tout à l'heure, l'Esprit Saint est là, il va entrer dans ta vie et tu vas devenir un enfant de Dieu. Vous savez, je vais clôturer avec ce verset dans Hébreux 10, 29. Hébreux 10, 29. Si l'ancien trouve avant, moi, il lit. Si je trouve avant, je lis. Hébreux 10, 29, c'est écrit. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, qui aura outragé l'esprit de la grâce. Quel jugement attend ceux qui vont négliger le travail accompli par l'intermédiaire? Quel jugement! Puisque Dieu va leur dire, ah, vous avez déjà péché. Je veux vous détruire, je ne l'ai pas fait. Et je vous ai suscité un intermédiaire pour le salut et vous avez encore résisté. Quel châtiment attend les gens? Je ne veux pas faire peur, je dis la vérité. C'est pourquoi je réitère encore, nous allons clôturer. Si quelqu'un veut s'engager avec Jésus, il lève la main, nous prions. Voilà. Et le Seigneur sera glorifié, il y aura de la joie auprès des anges. Voilà. S'il n'y a personne, nous allons quand même prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui nous a rappelé l'œuvre accomplie par l'intermédiaire sauveur, Jésus, notre intercesseur, notre médiateur. Nous prions que cela produise une conversion totale dans les cœurs aujourd'hui. Seigneur, je prie que s'il y a des personnes qui ont dans leur cœur dit qu'ils s'engageaient, mais qui ont peut-être eu honte, Seigneur, que tu les reçoives dans tes parvis éternels et que, Seigneur, ton Esprit Saint les conduise plus loin avec toi. Merci, Seigneur, de te manifester dans ta gloire et dans ta puissance. Que le nombre de sauvés ce soir augmente et qu'il y ait de la joie dans le ciel. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen.